Information importante. L'enregistrement de cet épisode a été fait en connaissance des polémiques qui entourent l'auteur de la saga Harry Potter. J'ai dû, pour le bon fonctionnement du podcast, m'appuyer sur certains éléments de sa vie. Toutefois, la diffusion ou l'enregistrement de ce podcast ne signifie en aucun cas que je suis en accord avec les actions et les propos tenus par l'auteur. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus dans Marque Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce 7e épisode de la saison 1 de Marque Page. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui, je l'espère, vous plaira beaucoup. C'est la suite, du coup, d'une saga dont on a déjà parlé par deux fois. Si vous avez suivi les épisodes précédents du podcast, vous voyez de quelle saga je veux parler. Les amis, nous refaisons nos valises et nous partons pour une troisième année à Poudlard, puisque aujourd'hui, nous allons parler de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est le troisième tome de la série. Il a été écrit donc par son autrice J.K. Rowling. Il est publié au Royaume-Uni le 8 juillet 1999. Et donc, son pays d'origine est le Royaume-Uni et son titre original est Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Il est publié en France près de 3 mois après sa parution originale, soit le 19 octobre 1999 dans la maison d'édition Gallimard et il est traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. Ce livre peut être identifié comme faisant partie du genre fantastique et j'ai eu l'occasion de le traiter via une lecture audio proposée par Écoute et Lire. Donc, qui est une société de production de livres audio. Et la durée d'écoute est d'environ 11 heures. Au moment où paraît ce troisième tome, la réputation de J.K. Rowling dans le domaine de la littérature jeunesse n'est plus à faire. En effet, elle a deux autres tomes derrière elle, ce qui fait qu'elle commence réellement à s'imposer comme une autrice quasi incontournable, malgré le fait que ça fait seulement 2 ans qu'elle est considérée comme auteure. Mais ses romans sont un tel succès qu'elle finit réellement par s'imposer comme étant une autrice vraiment très très influente, si ce n'est la plus influente de sa génération. Donc, en ce qui concerne le contexte d'écriture, au moment où elle écrit, ou en tout cas au moment où elle publie ce tome, sa carrière est, comme je le disais tout à l'heure, déjà lancée. Il faut savoir qu'avant le premier tome, donc avant la publication du premier tome, elle a fait une dépression à la suite de la mort de sa maman. C'est d'ailleurs sur cette période que se base la création de la prison d'Azkaban, et plus particulièrement de ses gardes, j'ai bien sûr nommé les Détraqueurs, dont on parlera tout à l'heure. J'ai découvert ce livre à la suite de ma lecture du deuxième tome. Comment peut-on résumer ce troisième tome ? Eh bien, je dirais que pour ce troisième tome, nous entamons notre troisième année, enfin plutôt quand je dis nous, c'est bien sûr notre sorcier à lunettes préféré, je parle de monsieur Harry Potter et de ses amis. Donc Harry et ses amis entament leur troisième année à Poudlard et la principale intrigue de cette troisième année, c'est l'évasion de Sirius Black d'une prison. Donc quand je dis une prison, c'est simplement parce qu'on parle de cette évasion de partout, que ce soit dans le monde des sorciers ou des moldus, puisque Sirius Black est mondialement recherché, ou du moins nationalement recherché, puisque c'est un tueur. Voilà, en tout cas, il est dépeint comme tel par les moldus, c'est un tueur. Et il s'avère en réalité que Sirius Black est un sorcier qui a effectivement tué beaucoup de monde. Apparemment, il serait du côté de Lord Voldemort, ou plutôt celui dont on ne doit pas prononcer le nom. En ce qui concerne du coup mes premières impressions, on assiste ici à des retrouvailles qui sont très plaisantes pour ce troisième opus. Troisième opus dans lequel les personnages ont un an de plus, donc il n'y a pas trop de changements, quoique les personnages sont toujours les mêmes. Donc dans ce sens, il n'y a pas trop de changements, mais vous verrez que la troisième année, pour moi, en tout cas tel que je le conçois, c'est un changement assez important. Pour plusieurs raisons, à commencer par le fait qu'il y a de nouvelles matières qui sont enseignées. Donc je me demande quel impact cela va avoir sur l'histoire. Il y a aussi la présentation de nouveaux lieux, comme par exemple Préolard. La visite de ce village exclusivement réservé aux sorciers est rendue possible dès la troisième année, et pas avant. Donc c'est pour ça que je me demande du coup à quoi ça ressemble, et c'est réellement presque, j'ai envie de dire, une invitation au voyage. Il y a également, à mon sens, beaucoup de rebondissements à prévoir, dans le sens où l'intrigue principale est focus sur quelqu'un qui vient de s'évader de prison. On ne sait pas encore pourquoi, et il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il y a aussi une interrogation qui est posée du fait que, effectivement, à la fois le monde sorcier et à la fois le monde Moldu cherche cette personne-là, donc on peut se demander aussi de quelle envergure sont ses crimes et ce pourquoi il est recherché. On l'apprend dès le début, hein. Mais c'est vrai que bon, le lien avec le monde des sorciers est assez difficile au début, puisqu'on a seulement le point de vue de la famille Dursley, qui le considère littéralement comme un fou furieux. Et qui ne le voit pas autrement. On va apprendre justement au fil de notre lecture à en apprendre davantage sur Monsieur Black. Et donc du coup, dans ce sens, on peut se demander quel impact peut avoir Sirius Black sur l'intrigue. L'intrigue du tome, certes, mais l'intrigue, j'ai presque envie de dire, globale de la saga. La question, si je peux la reformuler, c'est en gros, quel impact va avoir Sirius Black sur la saga à partir du moment où il est introduit, donc à partir de ce tome-là. Pour ce qui concerne mon analyse un peu plus poussée de ce tome, je l'ai découpé en 5 points importants, conclusion exclue. Le premier étant que la troisième année est un tournant inévitable. Cela commence par le fait que de nouvelles matières sont enseignées à Poudlard. Donc par nouvelles matières, j'entends que les deux premières années sont, en tout cas le programme des deux premières années sont plutôt basé sur des cours classiques, cours de potions, métamorphose, astronomie, etc., etc. Tandis que là, on a plutôt des cours qui sont un petit peu plus poussés. Pour faire un parallèle avec le monde Moldu, si vous voulez, c'est comme si vous veniez d'arriver en première et que du coup, vous commencez à avoir des cours un petit peu plus différents de la seconde générale. Donc, chez les sorciers, c'est pareil. C'est-à-dire que les deux premières années sont assez générales, puis à partir de la troisième, on commence à justement faire découvrir d'autres matières aux sorciers, en tout cas aux jeunes sorciers ou aux sorciers aguerris en devenir, que sont les jeunes élèves de Poudlard. Donc parmi ces nouvelles matières, on a l'arithmancie, on a le soin créature magique, la divination ou encore l'étude des moldus. Il y a également l'enseignement de ces nouvelles matières font qu'il y a un bouleversement des emplois du temps. Là où pendant les deux premières années, Harry, Ron et Hermione se suivaient continuellement et passaient toute la journée ensemble, il se peut que les trois amis soient séparés par leurs emplois du temps. J'ai bien dit il se peut parce qu'au début du tome, du coup, Hermione prend tout en même temps, donc tous les cours optionnels, les cours obligatoires, etc., etc. Elle prend tout en même temps, sans rien dire à personne, et puis en se disant, c'est bon, je vais dealer avec ça, et je m'en sors très bien, donc il n'y a pas de raison que là, je m'en sors pas bien. On verra plus tard que ça va lui causer un peu de tort, je vous en reparlerai. Il y a du coup, au début du tome, un focus sur le premier cours de soins aux créatures magiques. C'est du coup la première intrigue secondaire qui va être basée sur justement l'accident qui va avoir lieu pendant ce cours, donc qui est un cours donné par Hagrid, rappelons-le, Hagrid qui est le garde-chasse de Poudlard, qui jusqu'à présent n'était que garde-chasse, là maintenant il est garde-chasse et professeur, à la suite du fait qu'il a été innocenté pour des faits qui lui ont été reprochés il y a 50 ans de ça, puisqu'en fait il a été soupçonné d'avoir tué une élève lorsqu'il avait 13 ans, alors que finalement c'était pas lui. Hagrid, comme on le sait déjà depuis deux tomes, il est très attaché aux animaux. C'est donc sans surprise que Dumbledore lui confie de mener le cours de soins aux créatures magiques. Un premier cours qui se passe du coup, comme je viens de le dire, pas trop bien, parce que Hagrid présente aux élèves une créature pour le moins surprenante pour un premier cours. Il présente du coup un hippogriffe, et donc du coup il commence son cours en disant que les hippogriffes sont inoffensifs, donc bon... Déjà là, on sent pointer un petit malentendu au sujet de ce qui est inoffensif ou pas quand on voit la taille de l'hippogriffe, parce que c'est comme si c'était un aigle géant finalement, enfin un aigle tout court, mais avec une tête de cheval, je crois que c'est comme ça qu'il est décrit dans les livres. Hagrid pointe ceci dit quelque chose d'important, il leur dit que malgré le fait que les hippogriffes soient soi-disant inoffensifs, ils sont quand même très orgueilleux et donc il ne faut pas leur faire de réflexion ou de mauvais compliments puisque sinon en fait ils vont s'énerver etc. Et parmi les élèves qui suivent ce cours, on a notre cher Drago Malfoy et sa bande. Drago qui n'écoute absolument rien des consignes données par Hagrid et qui du coup, lorsque c'est son tour de s'approcher de Buck, donc Buck l'hippogriffe, lui balance une réflexion assez blessante pour le commun des mortels, hein, donc pour Buck aussi du coup, puisqu'en fait en disant qu'ils sont orgueilleux, etc., Hagrid pointe une caractéristique humaine sur un animal. Donc, on peut sous-entendre que si toutefois la réflexion de Malfoy peut blesser un humain, sur un animal qui a une caractéristique humaine, on peut supposer que ça ait le même effet. Et ben là, pas loupé. Puisque du coup, l'hippogriffe s'emporte et frappe Malfoy, ce qui lui cause une immobilité du bras pendant quelques jours, mais on va voir que cette histoire ne va pas en rester là, puisque en fait, il va monter les choses en épingle, présenter ça à son père, etc., qui va porter plainte, si je puis dire, contre Hagrid, et qui du coup va mener à la condamnation de Buck à mort. Pour ne rien vous cacher, voilà comment se présente la première sous-intrigue. Alors, on apprendra plus tard dans le tome que finalement, Buck sera sauvé et se sauvera avec Sirius. En tout cas, en début de tome, ça semble pas vraiment très très bien engagé. Et ce, jusqu'à presque la fin du tome finalement. Ensuite, je vous propose un deuxième focus sur Préolar, donc qui est littéralement un village magique. Préolar est un lieu magique, distrayant pour les jeunes sorciers. Préolar, eh bien, c'est un lieu exclusivement réservé aux sorciers, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout un lieu qui va être présenté dans le livre comme étant un endroit récréatif pour les jeunes sorciers, parce qu'en fait, les sorties seront occasionnelles. Et du coup, comme les sorties seront occasionnelles, ils vont vraiment prendre ça comme étant un shoot d'adrénaline, une grande récréation, une grande pause, d'autant plus que les sorties vont essentiellement se dérouler pendant le week-end, un temps où les enfants n'ont pas cours, en toute logique. Qui dit Poudlard sous forme de carte, dit forcément que les passages secrets sont cartographiés. Arrive à utiliser un ou plusieurs passages secrets pour pouvoir se rendre à Préolard de manière tout à fait illégal. Donc, on peut se demander, compte tenu du fait que Harry n'y est pas vraiment allé, est-ce que Préolard est aussi magique que ça ? De son point de vue, bien sûr, puisque, en fait, il y est allé qu'une fois ou deux. Et puis même pour les troisièmes années, Préolard, ça a quelque chose d'assez novateur et d'assez surprenant et de complètement magique. Mais bon, à en croire le narrateur, quand on en est à notre septième année d'études à Poudlard, finalement, Préolard n'a rien d'exceptionnel, quoi. Finalement, c'est un endroit comme un autre. Alors j'aimerais faire un petit erratum justement, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire avec Buck, c'était la première sous-intrigue qu'il y avait. Non, la première sous-intrigue, c'est pas ça. Il y en a même deux avant. Donc la première sous-intrigue, c'est l'histoire de Harry qui rencontre sa tante Marge, enfin sa tante, qui rencontre la sœur de son oncle Vernon, qui est présentée comme étant sa tante Marge, mais c'est pas vraiment sa tante. Une tante qui est exécrable, pire que les Dursley. Oui, je vous jure, c'est possible. Et qui, du coup, va essayer de rabaisser Harry pendant toute la semaine où elle est là. Enfin, quand je dis essayer, elle va même y arriver. Et Harry, vers la fin du séjour de la tante Marge, va perdre patience et va finalement la faire gonfler comme un ballon. À la suite de quoi, Harry quittera en étant extrêmement énervé Private Drive. Et puis, du coup, va finir ses vacances sur le chemin de traverse en recevant pour consigne de la part du ministre de ne pas bouger du chemin de traverse et de ne pas aller du côté moldu. Du côté moldu du chaudron baveur qui est le bar qui permet d'accéder au chemin de traverse. C'est une première intrigue que je vous présente assez rapidement et je m'en excuse, mais d'une part, je l'avais oubliée et ensuite, elle est nettement plus détaillée dans les livres. Du coup, si ça vous intéresse, je vous invite vivement à lire le livre. Comme deuxième intrigue, on a l'arrivée de Patanron dans la vie d'Hermione. Donc Patanron, c'est le chat d'Hermione, donc qui est un animal qu'elle a décidé d'adopter pour son anniversaire. Elle décide initialement d'adopter un hibou, mais finalement elle adoptera un chat qui va dès le début en faire voir de toutes les couleurs au rat de Ron qui s'appelle Routard. On verra plus tard pourquoi, mais c'est assez important. Et Patanron, on peut croire que c'est un personnage secondaire qui n'a pas d'histoire et pas d'importance, mais pour autant, il en a, à sa manière, mais il en a. Mon deuxième point porte sur le personnage de Sirius Black, que je considère réellement comme étant un personnage incompris, mais attachant. Donc pourquoi ça ? Simplement parce qu'on a une évolution de la vision de Black au cours de l'intrigue. Au début, il est réellement considéré comme étant un meurtrier sanguinaire et sans cœur, qui a littéralement vendu ses meilleurs amis à Lord Voldemort, ce qui en réalité n'est pas le cas. Mais ça, du coup, on l'apprend plutôt vers la fin de l'intrigue. Et finalement, à la fin du tome, on apprend que c'est un ami loyal qui n'a jamais cessé, ne cesse et ne cessera jamais de protéger et de prendre la défense des Potter en allant jusqu'à se sacrifier pour eux et partir en prison. Alors que ce n'est pas lui qui les a tués, mais bel et bien Peter Pettigrew alias Cutvert. En ce sens, je peux dire et j'ai pu constater que nous passons d'une certaine animosité à une affection quasi immédiate pour Sirius parce qu'on se laisse littéralement attendrir en fait par ce qu'il a vécu et ce par quoi il est passé. Et je vous le dis d'emblée, Sirius est un personnage important pour la suite de l'histoire. Vous saurez pourquoi en poursuivant l'écoute du podcast Marque-Page. Mon prochain focus est sur le personnage de Remus Lupin. Remus Lupin que je considère comme étant un véritable allié pour Harry. Pour la faire court, Remus Lupin est le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. C'est un fin pédagogue, un allié de Harry, proche de James et Lily, et pour cause, puisqu'ils ont fait leurs études ensemble. C'était un des meilleurs amis de James. Il a aidé à fonder la carte du maraudeur sous le pseudonyme de Lunard. En référence au fait que c'est un loup-garou et que du coup les loups-garous se transforment à la pleine lune, donc Lunard. Il permet au narrateur et donc par extension à Harry d'en apprendre davantage sur ses parents, dont il ne sait finalement presque rien. Remus Lupin tente comme il peut, puisqu'il ne remplacera jamais James et Lily, mais il tente comme il peut de combler le vide laissé par leur disparition, ce qui permet à Harry d'apprendre à se battre contre les détraqueurs. Et là, je fais un parallèle immédiat avec le fait que c'est Lupin qui a appris à Harry le sortilège du Patronus. C'est tellement un fin pédagogue que les leçons s'avèrent réellement efficaces et qu'il parvient par lui-même à produire un Patronus, ce qui, pour un sorcier de premier cycle en troisième année, est assez impressionnant, voire très très rare. Comment peut-on faire un focus sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sans parler, bien sûr, des animaux qui ont une place vraiment très importante dans ce tome, à commencer par bien sûr la présence d'Edwige, donc la chouette de Harry qui est déjà présente depuis deux tomes, mais qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Pareil pour Croutard, qui malgré le fait que ce soit un animagus est grandement présent. Donc Croutard qui est le rat de Ron, mais qui finalement s'avère être Peter Pettigrew, donc l'ami des parents de Harry qui les a vendus, enfin si on peut appeler ça un ami, qui les a vendus à Lord Voldemort. Donc ça c'est le rat. Référence au corsaire, du coup, qui est le patronus de Harry, mais également la forme que prenait James lorsqu'il se transformait en Animagus, et qui répondait au doux patronyme de Corne Dru, en référence à la corne du cerf. Puis Patmol, donc qui est le pseudonyme de Sirius lorsqu'il est en chien, donc qui est son Animagus, et son pseudo Patmol est en référence à la patte du chien qui se veut toute douce. Ensuite, au niveau des animaux de compagnie, Edwige est rejoint par Patanron, un chat aux propriétés magiques qu'a adopté Hermione lorsqu'elle était dans le chemin de traverse. En tout cas, lorsqu'elle a rejoint Harry au chemin de traverse quand il était en vacances au chaudron baveur. Du coup, elle a pris la décision de l'adopter, lui qui ne trouvait aucune famille. Il se trouve que finalement, Patanron a un rôle assez important dans ce tome puisqu'il a une forte connexion avec Sirius. Il comprend d'emblée que Peter Pettigrew n'est pas un rat, mais bel et bien un animagus. C'est pour ça qu'il le chasse tout au long du tome. Et c'est pour ça, du coup, qu'on peut assister à de nombreuses disputes entre Ron et Hermione. Je rebondis sur la condition, entre guillemets, de Remus Lupin en faisant un focus en fait sur le fait que dans le tome on précise qu'il est assez fréquemment absent. Hermione nous apprendra plus tard qu'elle avait des pressentiments particuliers par rapport au fait que Remus soit un loup-garou, puisqu'elle a fait le rapprochement avec le fait que Lupin était absent pile pendant les phases de pleine lune et que du coup, le lendemain, il était quasi impossible pour lui de faire cours. Et donc du coup, il a été remplacé in extremis par Rogue. En conclusion, on peut dire que dans l'ensemble, c'est un très bon livre. Gros point positif pour l'intrigue principale et le développement du personnage de Sirius Black. Ça fait un personnage supplémentaire qui vient enrichir le domaine de la saga Harry Potter. Une des questions principales que l'on se pose pendant ce tome et à laquelle on trouve finalement une réponse, c'est que s'est-il réellement passé lors de la disparition de James et Lily Potter, donc les parents de Harry. Les révélations faites au cours de l'intrigue et les indices qui y sont semés font que on a une meilleure compréhension de tout ça et de tout cet assemblement en fin de tome, lorsqu'en fait tout nous est expliqué, on arrive à faire le lien entre tout ce qu'on voit, tout ce qu'on constate, et réellement ça offre un final, j'ai presque envie de dire explosif, et qui nous laisse avec plein de nouvelles questions et plein de nouveaux raisonnements pour la suite, au-delà du fait que ça sert bien l'univers et qu'on a une meilleure compréhension de celui-ci. On assiste également à l'épanouissement et à l'évolution des personnages principaux, donc Harry, Ron, Hermione et toute la clique, ce qui dans l'ensemble est réellement très plaisant. J'ai réellement hâte de voir et de savoir et de constater ce qui va arriver à nos héros lors du 4e tome de la saga. On est presque à la moitié, les gars. Déjà. Concernant le narrateur, puisque comme vous le savez, j'ai lu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban via son adaptation audio. Il s'agit toujours de Bernard Giraudeau pour la troisième fois, puisqu'il a déjà fait les deux premiers tomes. C'est toujours un acteur français, encore et toujours, hein, il n'a pas changé de profession entre-temps. Et l'enregistrement a eu lieu dans les locaux de Radio France au cours de l'année 2004.
À bien des égards, Harry Potter était un garçon des plus singuliers. Tout d'abord, il détestait les vacances d'été. C'était la période de l'année la plus déplaisante à ses yeux. Ensuite, il tenait absolument à faire ses devoirs de vacances, mais il était obligé de les faire en secret, au beau milieu de la nuit. Enfin, il faut également signaler que Harry Potter était un sorcier. Minuit approchait. Les couvertures tirées par-dessus sa tête comme une tente, Harry était allongé à plat ventre sur son lit, une lampe torche dans une main, un livre relié plein cuir ouvert sur son oreiller. Il s'agissait d'une histoire de la magie par Adalbert Lasornette. Les sourcils froncés, Harry Potter fit courir le long de la page la pointe de la plume d'aigle qu'il tenait dans son autre main. Il cherchait des idées pour une dissertation sur le sujet suivant. La crémation des sorcières au XIVe siècle était totalement inefficace. Commenter et discuter.
Concernant les autres œuvres inspirées de l'ouvrage, je vais directement faire mention du film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui émerge et qui voit le jour en 2004 par l'intermédiaire de la société de production Warner Bros. Si les deux premiers films étaient confiés à Chris Columbus, pour le troisième, la société de production a décidé de faire appel à Alfonso Cuarón, qui est un cinéaste mexicain à qui on doit de très grands films. Le changement de direction artistique s'explique par le fait qu'on commence à avoir un univers de plus en plus sombre et un peu moins enfantin. D'où le choix de Alfonso Cuarón pour diriger cet opus. Avant de clore ce septième épisode de Marque Page, je vous propose une petite anecdote autour du troisième tome. La voici. La sortie du troisième tome était tellement attendue que l'éditeur britannique Bloomsbury a demandé aux librairies de ne pas vendre les livres avant la sortie des classes. Pourquoi ? Simplement parce que les enfants étaient tellement impatients qu'ils étaient prêts à sécher les cours pour aller chercher leur exemplaire d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et pouvoir découvrir la suite de l'univers. Et en tout cas la suite de l'histoire. Une belle preuve comme quoi l'histoire est vraiment de qualité. C'est la fin de ce septième épisode de Marque Page. On se retrouve la semaine prochaine pour le huitième qui aura pour sujet une autre saga ou en tout cas un autre chef-d'œuvre littéraire qui se rapproche d'ailleurs d'Harry Potter. Je parle bien sûr du chef-d'œuvre littéraire de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à lire et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre via mes réseaux sur Facebook et Instagram en tapant Le Temple des Mots. L'ensemble des liens et des comptes cités, des sources, etc. sont disponibles en barre d'infos de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marque Page. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.